Voilà, donc ce matin, on va continuer sur le thème de la foi, mais en abordant un autre aspect. On va voir ce matin une histoire très intéressante dans le Nouveau Testament qu'on a juste abordée la semaine passée un peu, mais on va voir comment que souvent des fois, on essaye par nous-mêmes d'essayer de s'en sortir dans notre vie de tous les jours, dans nos souffrances, dans nos problèmes, mais qu'on a besoin d'aller se mettre au pied de Jésus pour aller chercher son aide, sa guérison, le miracle d'être changé, transformé par lui. Je vous partagerai aussi un petit témoignage que j'ai entendu cette semaine d'une dame qui m'a vraiment comme bouleversé. Et on aura l'occasion d'en parler peut-être plus tard dans l'automne. Elle a écrit un livre. Malheureusement, on ne trouve pas le livre ici au Québec. Alors, comme j'ai des personnes qui vont en Europe tout prochainement, je vais leur demander qu'ils nous amènent le livre pour qu'on puisse être aussi bénis par ce livre. Donc, ouvrons notre Bible dans Marc chapitre 5, versets 25 à 31. Donc, c'est l'histoire de la femme avec la perte de sang depuis 12 ans. Donc, Marc chapitre 5, versets 25 à 31. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait été plutôt empiré. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même moment, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force s'était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Verset 31. Ses disciples dirent, tu vois la foule qui te presse et tu lui dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Verset 33. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Amen.
Amen.
Dans ce récit, donc, on voit une femme qui a une maladie, un mal qui ronge depuis plus de 12 ans. Vivre une perte de sang, c'est quelque chose pour une femme qui est très difficile, et surtout dans ce temps, du temps de Jésus, parce qu'elle était comme rejetée par la société. Elle était toujours comme impure, d'une façon rituelle. Donc, elle ne pouvait pas assister à la synagogue ou aller prier au temple. Elle devait toujours se cacher. Elle était toujours rejetée, même par sa propre famille. Tout le monde l'évitait, parce qu'on ne pouvait pas être en sa présence, parce que si on la touchait, on devenait aussi impur, d'une façon rituelle. Ce n'est pas parce qu'elle était pauvre qu'elle était dans cet état-là. On voit qu'elle a dépensé tout son argent en allant voir différents médecins, en essayant plusieurs médicaments différents. Mais rien n'avait changé. Donc, la première constatation qu'on peut voir, c'est parce qu'elle était impure, elle est rejetée par la société, elle vit dans l'opprobre, jour après jour. Elle ne peut même pas aller justement dire, comme on a dit, prier Dieu dans le temple à cause de son impureté. Cet état de péché de cette femme nous rappelle à chacun de nous le péché qui est en nous, dans cet état d'impureté. Et comme la femme, nous essayons des fois, avec nos péchés, à faire toutes sortes de choses pour s'en sortir de cet état. On essaye de vivre le mieux possible, on essaye de cacher ce péché loin de nous, on essaye de peut-être pas y penser pour pouvoir vivre jour après jour. En se convaincant que nous sommes assez justes, que peut-être on fait les bonnes choses, qu'on va à l'église et tout ça. Souvent, malheureusement, nous avons cet état de péché. Pas forcément des gros péchés, pas forcément des choses qui sont très visibles, mais des choses qui nous préoccupent, des choses qui ne nous permettent pas d'avancer avec le Seigneur, des choses qu'on essaye par nous-mêmes, comme cette femme d'essayer à travers différents médecins de trouver le remède, de trouver la guérison. Donc, comme cette femme, nous sommes pris dans un tourbillon. On n'arrive pas à s'en sortir. Alors, prochain diable, lorsque cette femme entend parler de Jésus, elle veut aller à sa rencontre. Mais le défi, c'est qu'elle ne peut pas se présenter devant lui. Imaginez, le fait qu'elle soit impure, elle ne peut pas venir devant la foule aux yeux de tous Tout le monde va la dire, mais vas-y, loin de nous, on ne veut pas aller avec nous, parce qu'on va être souillé. La foi de cette femme est vraiment grande, parce qu'elle voulait absolument être guérie. Elle a fait toutes sortes de façons, à travers les médecins, à travers les médicaments, à travers différentes situations, pour essayer d'être guérie. Mais jusqu'à ce jour, rien n'avait changé dans sa situation. Mais elle espérait encore après 12 ans d'être guérie. Voilà pourquoi elle veut se présenter. Mais elle se présente comme en arrière de la foule. Elle veut comme venir incognito. Imaginez, donc, elle se faufile, elle se cache, elle se faufile dans la foule pour arriver jusque vers Jésus. Imaginez la scène. Jésus qui est bousculé par la foule. Il n'y a pas comme aujourd'hui des policiers, des gardes-corps, lorsque par exemple, il y a un président qui se présente dans la foule, qui essaye de protéger la personne pour pas qu'elle soit envahie. Là, Jésus était vraiment comme bousculé par les différentes personnes qui voulaient le toucher, qui voulaient lui parler. Et elle essaye par toutes les forces d'arriver, elle tire les gens, elle pousse pour arriver jusqu'au pied de Jésus. Dans sa tête, elle est convaincue que juste de toucher le bord du vêtement de Jésus, elle allait être guérie. Imaginez cette foi de cette femme. Pendant des années, elle a payé plein de médecins pour être guérie. Et là, elle dit, ma seule chance, c'est d'aller vers Jésus, puis juste de toucher le vêtement, puis je vais être guérie. Peut-être c'est une foi de désespoir, mais elle veut tout faire pour y croire. Elle met toute son énergie pour frayer ce chemin jusque vers Jésus. Lorsqu'on est dans cet état de péché ou de situation difficile, lorsqu'on a cette conviction que Jésus peut changer quelque chose dans notre vie, alors il faut aller de l'avant. Même si ce n'est pas habituel ou conventionnel, même si peut-être on fait les choses différemment des autres. Mais lorsque nous sommes convaincus dans notre cœur, alors notre foi se met en action. Et nous pouvons faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Jésus a dit que même que notre foi peut déplacer des montagnes, imaginez. Donc, si lorsque on est convaincu que d'aller d'avant, puis qu'on sait dire, Seigneur, si je fais cela, je vais être guéri. Si Seigneur, je fais cela, un miracle va se passer. Si j'avance de telle direction, je vais voir des portes s'ouvrir devant moi. Donc, avec force et persévérance, cette femme arrive jusqu'à Jésus et touche le bord du vêtement de Jésus et là, miracle, sa perte de sang s'arrête d'un seul coup. Imaginez cette femme. Avec tout l'effort qu'elle arrivait, elle arrive, elle voit, elle se ressent dans son corps qu'elle est complètement guérie après plus de 12 ans. Donc, elle pensait qu'elle allait être guérie puis qu'elle allait pouvoir partir incognito. Elle avait tellement souffert le rejet de la société qu'elle ne voulait pas être reconnue. Mais là, on voit quelque chose de spécial arriver. Jésus s'arrête et demande qui l'a touché. Imaginez, hein? Il y a des foules partout, comme ça, et Jésus dit, hé, il y a quelqu'un qui m'a touché. Les disciples, Jésus, tout le monde te touche, là, tout le monde te bouscule. Non, il y a quelqu'un qui m'a touché, j'ai senti quelque chose sortir de moi. Puis lui, est en train de regarder la foule, de regarder à gauche, à droite, puis il dit pas. Les disciples vont dire, Jésus, il y a des problèmes, il commence à déraisonner pour dire, mais qui m'a touché? Qu'est-ce que Jésus veut dire par rapport à ça? Est-ce qu'il ne veut pas qu'on le touche? Est-ce qu'il commence à être, des choses spéciales par rapport à cela? Oui, la guérison de cette femme a eu un impact sur Jésus. Ce que Jésus voulait dire par rapport à cette phrase, qui m'a touché? C'est qu'il voulait que cette femme puisse se démontrer, puisse devenir au grand jour. Qu'elle ne reste pas exclue ou reclue dans son coin, même si elle était guérie, mais qu'elle puisse venir devant lui et lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Et donc Jésus, cette femme, en voyant que Jésus savait qui c'était, vint devant elle tout tremblante, se jeta vraiment à ses pieds, se prosterna, et va lui dire toute la vérité. Donc jusqu'à maintenant, la foi de cette femme l'a guérie d'une façon physique. Mais Jésus va aller plus loin avec cette femme. Et par cette interrogation, qui m'a touché, veut l'encourager à se repentir, à faire une confession publique. Lorsqu'on est dans la misère, dans la misère du péché, lorsqu'on essaie de se sortir par tous les moyens, souvent on tourne en rond, parce que nous n'avons pas la source du mal, c'est-à-dire de reconnaître que nous sommes dans le péché, que nous avons besoin de confesser pour être guéris. Donc, le premier point, pour être guéri, pour être restauré, il faut la repentance, il faut la confession. Nous devons nous repentir devant Jésus qui seul peut nous délivrer de tous nos maux. C'est vers lui que nous devons aller, c'est vers lui que nous devons confesser nos péchés et nos torts. Mais il y a aussi cette confession publique, là où les gens autour de nous vont entendre ce qui a changé en nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Que ce soit par rapport à une guérison d'une maladie, que ce soit un miracle qui a survenu. La confession publique permet que nous n'attribuions pas ce miracle pour nous-mêmes. Nous devons, comme cette femme, confesser que la guérison ou le miracle qui s'est passé, qui vient du Seigneur, uniquement. Les gens autour de nous doivent savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie, comment que le Seigneur nous a transformés, comment que le Seigneur nous a libérés de peut-être telle addiction, afin que nous puissions le louer, afin que nous puissions le remercier. Mais il y a aussi un autre aspect que nous avons vu aussi la semaine passée avec l'histoire du lépreux qui a été guéri. Rappelez-vous, Jésus ne désire pas qu'on soit juste guéri d'une façon physique, mais il veut nous guérir d'une façon intérieure. C'est-à-dire qu'il veut nous guérir de nos péchés, nous rentrer dans une nouvelle vie avec Jésus. Et comme Jésus va dire, comme aussi au lépreux samaritain, il va dire au verset 24, Jésus dit, ma fille, parce que tu as eu la foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. Va en paix et sois guérie de ton mal. Le Seigneur Jésus va lui dire que c'est pas seulement, guérie de la perte de sang, c'est-à-dire une guérison physique, mais il est aussi guéri intérieurement en pardonnant ses péchés, en lui apportant la paix. La foi de cette femme a permis d'avoir la guérison physique, mais aussi la guérison spirituelle, d'être pardonné de ses péchés, vivre une nouvelle vie. Voilà ce que le Seigneur veut dans notre vie. Il ne veut pas simplement une guérison physique, il ne veut pas simplement nous toucher pour qu'on soit différent. Mais il veut faire beaucoup plus. Il veut nous guérir intérieurement. Il veut nous restaurer. Il veut nous donner l'image qu'il a en nous. Cette image qui a été effacée, cette image qui a été comme abandonnée à cause du péché. Il veut nous restaurer réellement en lui. Ce bout de phrase, va en paix, est là aussi pour nous et pour nos proches, pour nos connaissances. Nous devons même aujourd'hui en tant que chrétiens, c'est de comprendre l'amour de Jésus pour nous. Mais souvent, nous ne vivons pas cette paix. Souvent, nous continuons de marcher avec Jésus, mais nous n'avons pas une paix réelle. Nous sentons qu'il y a quelque chose qui se passe. Et justement, j'aimerais vous partager ce témoignage de cette femme, Jannick, qui a écrit le livre « Je croyais être un homme », qui a vécu toute sa jeunesse dans une église, qui aimait Dieu profondément, mais qui avait une difficulté d'accepter son corps de femme. Elle a tenté même de se suicider. Elle a même atterri dans un hôpital psychiatrique. Elle a même bourré de médicaments. Elle a même amené une femme au Seigneur. Mais plus tard, même qu'elle continuait à aimer Dieu, qu'elle a continué d'aller à l'église, elle était mal à l'aise dans son corps. Elle était persuadée qu'elle était un homme. Et donc, elle a fait les opérations nécessaires pour devenir un homme. Et dans son témoignage dans le livre, on voit des photos de sa transformation. Plus tard, elle s'est même mariée avec une femme dans son église qui faisait la louange. Donc pendant 12 ans, cette femme, qui est devenue homme, vivait sa vie, continuait de servir le Seigneur, jusqu'au jour où ils sont venus, l'oncle Cook est venu au Canada pour servir, pour prendre une année sabbatique pour servir le Seigneur dans un ministère. Et là, un jour, l'Esprit de Dieu lui révèle qu'il peut la restaurer dans sa véritable identité de femme. Et là commence tout un bouleversement dans sa vie. Dieu a pris le temps de la restaurer. Dieu l'a pris de la montrer comment que elle était une véritable femme. Aujourd'hui, elle témoigne comment qu'elle est redevenue une femme, comment qu'elle va à travers les églises pour justement dire que elle pensait que elle était dans la vérité. Elle aimait vraiment Dieu profondément. Mais elle vivait quelque chose de difficile dans sa vie. Elle n'avait pas une réelle paix. Voilà pourquoi elle a tenté de se suicider. Voilà pourquoi elle vivait encore des temps de misère. Comme cette femme à la perte de sang, elle a essayé toutes sortes de choses, de guérir, d'être restaurée dans son corps. Jusqu'au jour qu'elle est venue devant, véritablement, les pieds de Jésus. Pour lui dire que Jésus va lui dire, va en paix. Lorsqu'elle a découvert réellement l'identité que Dieu voulait lui donner, elle est repartie en paix. Et Dieu a commencé à faire une transformation. Cette histoire de cette femme qui est devenue homme, vivait une relation avec Jésus, que je crois qu'elle est sincère pour elle. Mais comme elle a dit, elle disait qu'elle ne vivait pas réellement une véritable paix en Jésus. Parce qu'elle n'était pas vraiment dans les plans que Dieu avait pour sa vie. Nous allons rencontrer de plus en plus des personnes qui vivent ces situations, qui ne sont pas bien dans leur identité en tant qu'homme ou femme. On voit tout autour de nous, même à l'école, où aujourd'hui, ben, tu fais ce que tu veux. Si tu penses être si tu es un homme et tu penses être une fille, ben, tu es une fille, ou si le contraire. Même des jeunes âges, des fois même 4-5 ans, c'est les enfants qui décident de quelle identité qu'ils veulent. Les gens sont mélangés. Les gens cherchent des solutions par rapport à ce qu'ils vivent. C'est vrai que nous, en tant que chrétiens, on peut les juger. On peut leur dire, mais comment ça se fait que ces personnes, qu'est-ce qu'ils vivent? Même quand ils viennent à l'église, pourront leur dire qu'ils ne sont pas de véritables chrétiens. Lorsque j'écoutais ce témoignage, lorsqu'elle disait que même sa compagne faisait la louange dans l'église, je dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'elle pouvait louer le Seigneur, même encourager l'église à louer le Seigneur quand elle vivait des choses qui n'étaient pas justes? Dieu a pris le temps avec ce couple. On le voit tout à l'heure dans le livre. Ils se sont séparés parce que, je veux dire, elle a voulu, Jannick, reprendre vraiment son identité de femme. Mais c'est vrai que c'est difficile à comprendre, des fois, ce que les gens vivent. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, on est souvent vite à juger. Regardez cette femme qui avait eu la perte de sang depuis 12 ans. Les craignants Dieu, ceux qui voulaient suivre Dieu, ne voulaient pas qu'elle puisse aller prier dans le temple de la synagogue. Elle avait besoin d'avoir cette présence dans Dieu pour pouvoir être restaurée, d'être encouragée dans ce qu'elle vivait. Mais eux ne voulaient pas la prendre parce qu'ils disaient, non, si elle vient, on va être impur. Il la jugeait, il la condamnait. Souvent, nous pouvons condamner des personnes par rapport à des choses visibles, par rapport à leur identité, par rapport à leur orientation. Mais souvent, nous avons même nous-mêmes des péchés cachés, non confessés. Et devant Dieu, un péché, c'est un péché. Même si nous continuons d'aller à l'église ou de servir Dieu. Donc, voilà le deuxième point que nous voyons dans ce texte de la femme guérie de la perte de sang. Dans le témoignage de cette femme qui est devenue un homme et qui a eu un changement, c'est le renouvellement de l'intelligence. Rappelez-vous que nous avons lu au début de l'été, ce texte de Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous indique donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là votre corps de votre part, un culte raisonnable. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de vos pensées pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Le renouvellement de l'intelligence se fait après la repentance. Après avoir reconnu que nous sommes dans le péché, dans l'orgueil de la vie sans Dieu, nous avons besoin que notre intelligence soit transformée. Parce que c'est vrai que nous sommes habités par les pensées de ce monde avant de recevoir Christ. Cette dame qui croyait être un homme était influencée par le dysfonctionnement de sa famille, par les écrits et témoignages d'autres personnes qui étaient transgenres. Paul nous dit ne pas nous laisser modeler ou se conformer au siècle présent, c'est-à-dire de suivre ce que la société nous pousse à être. Même si aujourd'hui, bien des façons de faire les choses sont acceptées, ou même reconnues, ou même encouragées, ça ne veut pas dire que nous devons les accepter en tant que chrétiens. Le Seigneur nous demande d'être transformés par un renouvellement de nos pensées, non pas à la façon du monde, non pas par rapport à nos propres pensées, mais par un changement de pensée qui vient de Dieu. Si nous avons justement cette pensée de Dieu, de cette pensée de Christ en nous, alors notre corps, notre cœur tout entier sera transformé. Nous allons vivre plus pour nous, mais nous allons vivre pour Christ. Avoir la pensée du Christ demande du temps. Dans le sens que ça prend un certain temps, même toute notre vie, pour que cette pensée du Seigneur
pénètre réellement en nous, puisse nous transformer, qu'elle nous change et nous transforme réellement. Voilà pourquoi que des fois, ça prend du temps même dans notre propre vie d'être changé. Voilà pourquoi que des fois, on traîne des péchés, on traîne des choses dans notre vie pendant des années, des blessures, des situations difficiles, parce que ça prend un temps pour vraiment que le Seigneur nous change. Mais tant qu'on a la foi de le faire, tant qu'on a le désir de marcher en avant, tant qu'on a le désir de vivre dans la paix de Dieu, alors nous progressons, nous cheminons. Dieu ne nous condamne pas. Dieu n'a rien dit à cette femme qui avait la perte. Il ne lui a pas reproché de dire, mais pourquoi tu n'es pas venu devant moi? Pourquoi que tu n'as pas attendu que je sois avec toi, etc. Non. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Nous avons besoin des fois d'être réinstruits, de réapprendre, même si ça fait des années que nous sommes avec le Seigneur, de dire, Seigneur, pourquoi que ma foi n'est pas plus en action? Pourquoi que j'ai une foi qui est un peu tiède? Pourquoi que je ne vois pas des miracles, des changements dans ma vie? Peut-être posons-nous la question. Peut-être dire, Seigneur, renouvelle mes pensées. Renouvelle la façon d'engagement envers toi. Permets qu'il n'y ait que toi seul qui sois le Dieu, comme on l'a chanté tout à l'heure. Alors, comme conclusion, comme on a vu dans ces 15 derniers jours, ce thème de mettre notre foi en action. On a vu la semaine passée justement l'histoire de la guérison de ce général syrien, Naaman, qui est venu vers le prophète Élisée, qui voulait la guérison à sa façon, qui était même fâché que le prophète Élisée n'est même pas venu devant lui, l'a touché, lui a donné des paroles. Simplement dit, va dans le Jourdain te plonger cette fois. Nous avons vu justement pourquoi Élisée ne se présente pas devant Naaman. Cet homme était orgueilleux, a bien reçu dans sa vie, il méprise les autres. Et Élisée veut lui montrer que Dieu peut le guérir, mais pas selon les règles qu'il a lui, Naaman, mais selon les règles de Dieu. Et c'est là justement que Dieu intervient pour nous dire d'avoir la foi, de lui faire confiance, qu'il sait tout ce que nous avons besoin. Comment les choses doivent aussi se passer? La foi se réalise justement lorsqu'on le met en pratique, lorsque nous allons faire quelque chose qui n'est pas prévu, qui sort de l'ordinaire, quelque chose d'invraisemblable, comme d'aller plonger cette fois dans une rivière. Pourquoi plonger cette fois? On ne pourrait pas le faire juste une fois, peut-être maximum deux fois. Ça prend du sens pour Naaman. Mais s'il a, il l'a fait par la foi après, Dieu l'a guéri. C'est possible que Dieu va nous demander un jour de faire quelque chose qui n'a pas vraiment de sens pour nous, qui sort de l'ordinaire. Et c'est là que Dieu veut voir si nous avons la foi. Dieu veut s'attendre à ce que nous lui obéissons. Donc la foi ne se mesure pas juste lorsqu'on fait des choses impossibles aux hommes, mais des choses tout à fait des fois ordinaires, des choses très simples. Dieu nous demande d'obéir, Dieu nous demande de marcher par la foi, de faire ce pas de foi. Et c'est dans ces moments-là que nous allons voir si vraiment notre foi est réelle, si vraiment notre foi est en action. Comme on a dit souvent, nous pouvons avoir la foi de croire en Dieu, nous pouvons avoir la foi de croire que Jésus nous a sauvés, nous a pardonnés. Mais c'est lorsqu'on met cette foi en action, lorsqu'on marche, même si on ne sait pas très bien où on doit aller, lorsqu'on entend la voix de Dieu qui nous dit « va, va en avant » et que nous allons, c'est à ce moment-là que la foi se met en route. C'est à ce moment-là qu'on voit réellement le miracle, la puissance de Dieu sur nous. Le but, c'est aussi de pouvoir reconnaître que seul Dieu peut faire quelque chose. Si Dieu nous donnait tout à l'avance, si lorsqu'on priait, puis qu'on demandait, puis Dieu nous donnait tout, toutes les directions, tout le même cheminement de notre vie, on n'aurait pas la foi. On manquerait, on pourrait même discuter avec Dieu. Mais Dieu, Dieu nous dit, je te donne juste une partie. Mais continue d'avancer. Et tu vas voir comment que mon plan va se réaliser pour toi. Puis nous avons vu aussi justement la guérison du 10 lépreux qui vient devant Jésus pour être guéri. Là, encore une fois, Jésus va simplement leur dire, allez vous présenter devant vos prêtres. Et la foi de ces lépreux permet qu'en cours de route, ces 10 lépreux ont été guéris de la lèpre. Mais on a vu qu'un seul est revenu sur ses pas pour le remercier, pour le louer, pour reconnaître que Jésus était vraiment le Seigneur, le merci. Dieu veut voir notre foi en action lorsque nous marchons en avant pour lui. Il veut voir si réellement nous sommes prêts à faire ce pas de foi. Avant de voir les choses se réaliser, avant de voir l'accomplissement de ce que Dieu nous demande de faire. Comme nous l'avons dit, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, où nous reprenons généralement nos habitudes quotidiennes, notre routine, notre peut-être l'école pour certains, la nouvelle formation, peut-être un nouveau travail, c'est l'occasion de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi pour cette nouvelle saison? J'aimerais avoir ton plan, j'aimerais avoir ta direction. Le Seigneur peut-être va dire, va en avant, je vais te guider. Mets ta foi en action. Mais nous devons aussi le remercier, comme ce lépreux qui revient. Ce lépreux a dit, avant que je me retourne vers les prêtres pour confirmer ma guérison, je veux retourner pour aller remercier celui qui m'a guéri. Pour la reconnaître que c'est lui, Jésus-Christ le Messie. Voilà l'important de tout ce que le Seigneur fait pour nous, d'avoir cette attitude de reconnaissance, de louange envers celui qui est tout pour nous. La reconnaissance fait partie de notre foi, qui démontre que nous sommes dans la louange et l'adoration. Parce que souvent, des fois, on n'est pas content envers Dieu. Parce que Dieu nous dit de faire telle chose. Dieu nous donne quelque chose, peut-être juste à moitié. Puis on s'attend, on rouspète, on charge, Seigneur, je t'avais demandé plus, Seigneur, je t'avais demandé telle chose. Et dire, Seigneur, je reconnais, je te remercie pour ce que je suis en train de faire dans ma vie. Je te remercie parce que je peux continuer par la foi. Je te remercie parce que tu es avec moi, jour après jour, pour marcher. Et voilà pourquoi que Jésus va nous dire quelque chose de très important. Dans Luc 17, verset 19, qu'on m'a vu la semaine passée, il dit à ce lépreux samaritain qui est revenu, « Parce que tu as eu la foi en moi, tu es sauvé. » Comme il a dit à cette femme samaritaine, cet homme n'a pas été juste guéri physiquement, mais il est restauré en tant qu'enfant de Dieu. Jésus-Christ l'a pardonné, l'a gracié, lui a donné une nouvelle vie. Voilà ce que Jésus veut nous dire encore ce matin. Que nous pouvons être guéris physiquement, mais pas connaître la guérison de l'âme et du péché. Jésus veut encore faire un miracle dans notre vie. Mais c'est avant tout, il veut que nous puissions reconnaître qu'il est le Seigneur, le Sauveur. Que nous puissions le louer pour cela. Alors que nous puissions avoir cette attitude dans notre vie de tous les jours. Démontrer qu'il est ce Seigneur pour notre vie. Qu'il est le Maître, que nous le suivons dans l'obéissance. Alors, osons faire ce pas dans l'inconnu. Restons dans la repentance de l'humilité, comme ce général Naaman, qui a dû reconnaître qu'il y avait un seul Dieu, pour vivre cette transformation par notre Seigneur. Soyons renouvelés dans notre intelligence, afin que nous puissions vivre véritablement dans la volonté de Dieu. Alors, coupons notre tête. Et réalisons que ce matin, le Seigneur veut encore nous dire quelque chose. Pour une grande majorité, peut-être, qui nous écoute ici en présentiel, sur YouTube, sur Zoom, ça fait des années que vous êtes avec le Seigneur. Le Seigneur veut dire, peut-être de vous dire ce matin, je désire que tu fasses un pas de foi de plus. Je veux te donner encore plus que ce que tu as. Mais pour cela, il faut que tu mettes ta foi en action. Que tu redécouvres ce que veut dire de marcher par la foi. Peut-être que nous avons, comme cette femme, besoin de se mettre au pied de Jésus puis confesser nos péchés, nos torts. Confesser que nous avons tellement voulu essayer par nos propres moyens, essayer de vivre le mieux possible. Et qu'on a besoin de venir devant lui, de lui laisser le contrôle total de notre vie. Peut-être que nous avons besoin aussi d'avoir ce renouvellement de l'intelligence. D'avoir de redécouvrir la pensée de Dieu en nous. Trop souvent, la pensée du monde, même malheureusement dans nos églises, vient. Nous essayons de vivre le mieux possible en prenant les choses de Dieu, en prenant aussi les choses du monde. On choisit de faire un mélange, on choisit notre vie à notre façon. Le Seigneur veut nous dire ce matin, je veux que tu renouvelles tes pensées parce que je veux t'attendre à toi quelque chose de meilleur. Je veux encore t'amener quelque chose d'encore plus grand dans ta vie. Je veux que tu sois encore plus un témoignage auprès des autres. Je veux que tu puisses marcher par la foi, faire des prières audacieuses pour ta famille, pour tes voisins, pour tes membres de ta famille qui ne connaissent pas le Seigneur.
Alors qu'Allah nous répond. Si nous sommes au pied de Jésus, comme cette femme, Jésus connaît exactement notre cœur. Comme il connaissait le cœur de cette femme, voilà pourquoi il l'a interpellée. Voilà pourquoi il voulait qu'il vienne devant lui. Qu'il vienne se prosterner, reconnaître la majesté de Dieu. Reconnaître ce qu'il y avait dans son cœur pour être guéri, pour qu'elle puisse partir en paix. Seigneur, on te remercie pour ces exemples de ta parole. Merci pour cet exemple de cette femme qui a vécu tellement de choses difficiles pendant plus de 12 ans, qui était rejetée par son peuple, par sa famille, qui ne pouvait même pas aller prier dans ton temple. Seigneur, la foi de cette femme a permis qu'elle soit guérie. Mais Seigneur, tu as fait beaucoup plus que juste la guérir physiquement. Tu as restauré son âme. Tu as délivré sa vie de ses péchés. Tu lui as donné une nouvelle vie. Tu lui as donné ta paix, ta véritable paix. Seigneur, nous devons reconnaître que souvent, nous pouvons ressembler à cette femme. Que nous essayons par nous-mêmes à s'en sortir. Que nous essayons d'être heureux, d'avoir une belle vie, d'avoir un bon travail, de pouvoir faire plein de choses dans notre vie. Mais nous ne vivons pas cette paix. Nous sentons dans notre cœur qu'il y a encore un manque. Seigneur, permet que nous puissions nous repentir devant toi. Nous repentir des fois aussi de nos péchés non confessés. Des choses que nous prenons avec nous, que nous tirons des fois depuis des années. Ô Seigneur, ce matin, nous voulons te remettre ces choses, nos torts, nos vies avant toi, notre désir de vouloir vivre notre façon, notre vie à notre façon, on veut les mettre devant tes pieds et dire, Seigneur, on t'abandonne toutes ces choses parce qu'on veut vivre selon toi. On veut vivre cette paix que tu veux nous donner. Alors oui, reçois cette confession, reçois cette repentance de chacun de nous. Tu connais exactement là où nous sommes. Tu peux nous interpeller. Là, on a besoin de grandir, de progresser. Tu veux nous interpeller là, il y a des choses qu'on a besoin de lâcher prise devant toi. Même si des fois, ce n'est pas des péchés, même si des fois, peut-être, c'est des choses, mais qui nous prennent trop d'énergie, trop de temps, qui nous empêchent de vivre réellement en toi. Seigneur, lorsque nous l'abandonnons, nous voulons être renouvelés dans notre esprit. Nous voulons, Seigneur, pas nous conformer au monde, au siècle présent, mais nous voulons nous conformer à ta parole, à ta vérité. Permet que notre intelligence, Seigneur, soit renouvelée. Permet que tes pensées viennent dans nos pensées. Que, Seigneur, tes pensées continuent de nous travailler, de nous restaurer, de nous façonner pour que nous puissions redevenir l'homme, la femme que tu désires. Oui, Seigneur, nous voulons être changés, transformés, comme cette femme qui était guérie. Restaurée entièrement en tant que femme, mais aussi en tant qu'enfant de Dieu. Je te prie, Seigneur, que chacun de nous, là où nous sommes dans notre cheminement avec toi, que tu continues de travailler pour que nous puissions marcher par la foi. Seigneur, tu connais chacun de nos défis, tu connais peut-être nos interrogations, tu connais, Seigneur, nos cris vers toi pour différentes choses, pour nos maladies, pour nos problèmes, Seigneur, de santé, pour d'autres problèmes financiers, problèmes de famille ou autres. Tu connais ce qui se passe. Nous voulons, Seigneur Jésus, marcher par la foi et entendre que tu nous dis, allez, va en avant et tu vas voir la guérison, tu vas voir le miracle, tu vas voir la puissance de Dieu se manifester. Oui, alors Seigneur, on veut marcher par la foi, on veut aller de l'avant dans notre vie, notre Église, pour que nous puissions voir des grandes choses se passer, pour que nous puissions voir d'être restaurés entièrement en tant que personne, en tant qu'enfant, fils et fille du Dieu très haut. Merci. Merci parce que tu es un Dieu tellement grand. Merci pour ta grâce, parce que tu nous pardonnes.
tu es mort une fois pour toutes pour nous et tu nous donnes encore cette grâce d'être pardonné, d'être lavé et purifié. Merci Seigneur parce que le Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es là avec nous et tu continues de marcher avec nous, continues de nous encourager, d'avancer, de garder les yeux fixés sur toi afin que ton nom seul soit proclamé. Nous te remercions de louer, Seigneur Jésus. Oui, nous voulons, Seigneur, marcher dans tes pensées à toi jusqu'à ce que tu reviennes, que nous puissions continuer de te louer, de t'adorer pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Par ton nom, Seigneur Jésus, nous en prions. Amen. Amen. Amen.